Tout ce qui, dans les intelligences éparses sur cette terre, prend feu çà et là et pétille, est le fait de Paris. Le magnifique incendie du progrès, c'est Paris qui l'attise. Paris a sur la terre une influence de centre nerveux. S'il tressaille, on frissonne.
Jukebox.
L'homme peut-il contrôler sa destinée? C'est la question à laquelle j'espère trouver une réponse.
Jukebox.
Des histoires en musique.
Oh, le futur est déjà écrit, il est irrévocable, on ne peut pas le changer.
Ah bon, Richardo.
Un événement du passé mis en récit, mêlé à des archives et des musiques choisies, chaque samedi à 19h et à toute heure sur franceculture.fr. Demandez le programme, voici Jukebox. Ce soir, nous plongerons dans le Paris de la fin du 19e siècle. Ville de la modernité naissante, des becs de gaz, puis de l'électricité, des omnibus et du futur métro. Ville des théâtres, des cafés-concerts, des expositions universelles, du fer et de la tour Eiffel. Ville des luttes politiques aussi. Paris, dont la bande-son alors est foisonnante. Opéra comique, opérette, spectacle de cabaret ou chansons engagées. Dans cette histoire, on croisera des coups de hanches effrénés, un Allemand à binocle, des chantiers nocturnes, des rêves placardés et un philanthrope britannique. Ce soir, Paris 1875, une fin de siècle en fanfare. Éclairée par ses lampadaires à gaz, la place Boieldieu, ce 3 mars 1875, est déserte. Seul un groupe de marchands ambulants la traverse, passant devant l'imposante façade de la salle Favart, ses colonnes de pierre coiffées de chapiteaux doriques et sa longue corniche dont l'obscurité empêche de lire l'inscription disant la fonction du lieu, théâtre royal de l'opéra comique. Théâtre dont, soudain, la porte s'ouvre, laissant s'échapper une dame, un homme en redingote et haute forme et leur jeune fille enveloppée dans une cape. Tous trois s'éloignent sans tarder, tandis que le haute forme lâche un juron, écho du drame qui se joue ce soir-là à l'intérieur du bâtiment. Dans la salle de plus de 1200 places et qui, à sa construction, avait tant étonné par son imposante structure métallique, ses loges confortables à l'éclairage intimiste qui faisait jaser les familles bourgeoises qui s'y pressaient, emmenant leurs filles à marier histoire de leur faire croiser d'aimables parties. Leur morale ne risquait rien. À l'opéra comique, les histoires données à voir se terminent bien, les œuvres sont tout ce qu'il y a de plus convenable. On est loin du tout nouvel opéra de Paris qui déroule ses indignes bals masqués ou ses aventures galantes et scandaleuses. Or, ce 3 mars 1875 précisément, c'est à l'opéra comique qu'éclate le scandale. Le spectacle qui y est donné pour la toute première fois choque. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je t'aime, prends garde à toi. Mais à quoi tout ceci rime-t-il ? Dans la coulisse, le responsable du naufrage, un trentenaire bonhomme, sue à grosses gouttes, semblant se cacher derrière la barbe qui lui mange le visage. Au revers de sa veste, il arbore la Légion d'honneur qui lui a été décernée l'après-midi même. Il pourrait plastronner, mais il n'en mène pas large. Les musiciens et les choristes sont médiocres. Les changements de décor prennent un temps infini et surtout, certains spectateurs se lèvent et quittent la salle en pleine représentation. Georges Bizet contemple la salle se dégarnir lentement, le rouge du velours des sièges crever l'obscurité à mesure que se lèvent les mécontents. À ses côtés, le directeur du théâtre ne fait rien pour alléger sa peine, lui qui, pendant les répétitions, n'avait jamais caché son hostilité envers un livret qu'il trouvait indécent. Le livret, l'histoire d'une jeune femme libre et sensuelle, une gitane du Séville de 1820 dont la beauté faisait tourner la tête des hommes. Pendant le dernier acte, l'ambiance dans la salle se tend encore. Le public manifeste de plus en plus bruyamment sa désapprobation face à la liberté de cette bohémienne que, comble de l'impudeur, on nous montre se faisant poignarder par son amant éconduit. Mortifié, Bizet court finalement se cacher dans les loges. La presse le lendemain descend Carmen en flèche. « Il faudrait la bâillonner », écrit le chroniqueur du quotidien Le Siècle, et mettre un terme à ses coups de hanches effrénés en l'enfermant dans une camisole de force après l'avoir rafraîchie d'un pot à eau versé sur la tête. L'étrangle des sistres tintait, extrait de l'acte 2 de Carmen, créé en 1875, avec la cantatrice Célestine Gailly-Marié dans le rôle-titre, ici dans un enregistrement de 2010 avec la mezzo-soprane Elina Garancha et l'orchestre symphonique de la RAI. Ce 3 mars 1875, bouleversé par l'accueil donné à sa Carmen, Bizet tombe malade. contre l'avis de ses amis, il court se réfugier dans sa maison de Bougival, en bord de Seine, là où, 3 mois durant, il avait composé sans relâche les 1200 pages de la partition de Carmen. Le 29 mai, il se baigne dans le fleuve glacé. Les jours suivants, son état empire et bientôt, dans la nuit du 2 au 3 juin, il succombe d'un infarctus à l'âge de 36 ans. Et forcément, on ne peut s'empêcher de relier cette fin de vie brutale au sort injuste, quoique très temporaire, donné aux premières représentations de ce qui deviendra l'un des opéras les plus joués au monde. Pour Carmen, Bizet avait pourtant suivi la mode qui chavirait alors Paris, celle de l'exotisme et de la fascination pour l'Orient, adaptant pour l'occasion une nouvelle de Prosper Mérimée racontant l'histoire d'une gitane du sud de l'Espagne. Sauf que, si l'on goûte alors les histoires lointaines, cette exigence de dépaysement se heurte aussi, ces années d'après-guerre, à un retour certain à l'ordre moral. Ce début de Troisième République, la défaite de Sedan et l'écrasement sanglant de la Commune de Paris restent un traumatisme. Les conservateurs catholiques et les monarchistes ont repris les rênes du pays, qu'ils entendent ramener à plus de religion et plus de vertu. Les cabarets, les cafés-concerts ont tendance à quitter le centre de Paris pour se concentrer sur les grands boulevards ou dans l'est parisien. On fustige alors les gandins, les jeunes à la mode, les petits crevés du boulevard, ou bien les lorettes, surnom donné aux femmes galantes. Pourtant, les mœurs résistent. Et les bals, cafés ou théâtres fermés rouvriront rapidement, se multipliant. Mais revenons maintenant un peu en arrière, à l'assaut de cette fin de siècle dément qui voyait alors Paris, ville lumière, partir dans toutes les directions. La vie parisienne, prenons-la justement quelques années plus tôt, telle qu'en 1866, un immigré allemand l'avait dépeinte dans un opéra bouffe du même nom. Ce musicien, c'est Jacques Offenbach, né Jacob Offenbach à Cologne. Il avait débarqué à Paris en 1833 sans un sou en poche. Violoncelliste virtuose, esprit facétieux, il se met d'abord à composer des pièces burlesques pour les salons mondains qu'il intègre, puis quelques opéras comiques. En 1855, il ouvre ensuite sur les Champs-Élysées, qui n'est encore qu'une allée non pavée, son propre théâtre, le théâtre des bouffes parisiens. Il déniche alors comme librettiste Ludovic Halévy, un génie du dialogue, qui est également un respectable fonctionnaire ministériel, ce qui est bien pratique tant à l'époque, le politique se mêle de tout. En 58, pourtant, le gouvernement lève une étrange restriction qui limitait alors souvent le nombre d'acteurs à 3 par spectacle. Offenbach en profite pour créer son Orphée aux Enfers, son premier opéra bouffe sous forme d'une audacieuse satire mythologique pleine d'indulgence pour la pauvre condition humaine et qui rencontre le succès. Puis en 64, Napoléon III signe enfin un décret libéralisant les théâtres et mettant fin au système de privilèges instauré en 1807 par Napoléon Ier et qui réduisait jusqu'alors à 8 le nombre de théâtres parisiens autorisés. Offenbach fait alors de l'opéra bouffe le genre à la mode. Il impose son style enlevé, son accent allemand à couper à la serpe, ses favoris, son binocle. Il devient la première star de la musique mondiale. En 1866 est donnée au théâtre du Palais Royal la première de sa vie parisienne. Le livret a bien été un peu remanié à la demande de la commission de la censure. Des phrases trop suggestives ont été supprimées et un passage caricaturant le monde politique et militaire a disparu. Le Figaro salue une satire très fine et, disons-le, dans la plus flagrante actualité. Elle va droit au but qu'elle veut atteindre avec beaucoup de sens, beaucoup d'esprit. Et beaucoup d'à propos.
Thank you.
interprété ici en 1976 par l'orchestre du Capitole de Toulouse sous la conduite de Michel Plasson, l'ouverture joyeuse et pompière de la vie parisienne d'Offenbach à laquelle assiste alors le tout Paris jusqu'au Prince de Galles en décembre 66 où Napoléon III et sa femme, le même mois. Le succès que rencontre l'opéra d'Offenbach durera des mois entiers. Et d'ailleurs, début avril 67, lorsque s'ouvre l'exposition universelle sur le Champ de Mars, les visiteurs étrangers, rapporte un journaliste, n'ont qu'une idée en tête, trouver des places pour ce spectacle ainsi que pour la Grande Duchesse de Gerolstein, l'autre triomphe du moment d'Offenbach, donné en parallèle au Théâtre des Variétés avec la cantatrice Hortense Schneider dans le rôle-titre. Les expositions universelles, ces nouveaux raouts de la modernité industrielle dont Paris accueille ces années-là de nombreuses éditions. Depuis celle de 1855 sur les Champs-Élysées où l'on avait fait pour l'occasion surgir de terre le palais de l'industrie, réponse de Napoléon III au Crystal Palace anglais. Et puis il y avait eu l'exposition de 67 sur le Champ de Mars, celle de 78 avec la création du palais du Trocadéro, celle de 89, marquée par l'inauguration de la Tour Eiffel, avant celle de 1900, célébrant la fin de siècle. Le peuple de Paris s'enivre alors pour le progrès technique et la modernité. D'autant qu'à l'époque, Napoléon III, qui avait vite remisé son costume de président républicain pour revêtir l'habit d'empereur, rêve de faire de Paris la capitale d'un monde nouveau. Pour ce faire, il a confié la tâche au baron Haussmann, préfet de la Seine. À charge pour ce dernier de lancer dès 1853 d'immenses travaux afin de remodeler nombre de quartiers insalubres où il est parfois impossible à deux hommes de se croiser. Aérant, à coups de spéculations sans scrupules, de grandes artères et de cossus immeubles en pierre de taille, la vieille ville médiévale. Prolongation de la rue de Rivoli, percement des boulevards Saint-Michel, Saint-Germain, Sébastopol, etc. C'est tout un monde qui disparaît alors, celui du petit peuple et des cabarets populaires décrits par Eugène Sue dans ses Mystères de Paris. Les travaux, qui s'étaleront sur plus de 15 ans, ont lieu jour et nuit, où, à la lumière de gigantesques projecteurs électriques, s'échinent des milliers d'ouvriers, ces mêmes ouvriers qui bientôt n'auront plus les moyens de vivre au cœur de cette ville réinventée, mais que pour l'heure, on vient regarder travailler en début de soirée, comme on irait au théâtre, avant d'aller souper dans les brasseries ou bien chez Richard, avec Lise ou Blanche.
Nous sommes deux drôles aux larges épaules, deux joyeux bandits sachant rire et battre, mangeant comme quatre, puffant comme dix, qu'en vidant des litres. Nous cognons aux vitres de l'estaminet. Le bourgeois difforme, tremble en uniforme. Sous son gros bonnet, nous vivons en somme. On est honnête homme. On n'est pas mouchard. On va le dimanche avec Lise ou Blanche dîner chez Richard. Nous vivons sans gîte, goulûment et vite, comme le moineau. Haussant nos caprices jusqu'aux cantatrices de chez Bobineau, la vie est diverse. Nous bravons l'averse qui mouille nos peaux. Toujours en ribote, ayant peu de bottes et point de chapeau, nous avons l'ivresse. l'amour, la jeunesse, l'éclair dans les yeux, des points effroyables, nous sommes des diables, nous sommes des dieux.
Mise en musique et interprétée par Colette Magny en 1965, ce poème de Victor Hugo intitulé « les Tuileries » car dans la suite du poème, nos deux seigneuries vont aux Tuileries flâner volontiers et dire des choses aux servantes roses sous les marronniers. Rédigé entre 1847 et 1850, il y est fait mention à la fin du théâtre Bobineau, aussi appelé Bobinche, fondé en 1816 et qui présentait spectacles forains, drames, vaudevilles ou revues. France Culture, Jukebox, ce soir, quand Paris orchestre sa fin de siècle. Les théâtres parisiens qui, cette deuxième moitié de 19e siècle, s'ouvrent en cascade. Il faut dire que, par ailleurs, ils partent souvent en fumée dans des incendies spectaculaires et mortels. La salle Favart, pour ne prendre qu'elle, brûle deux fois, la première en 1838 après que le tuyau du calorifère a mis le feu au magasin des décors, la deuxième fois en raison d'un problème de l'éclairage au gaz. À la suite de cet incendie, en 1887, l'éclairage à l'électricité deviendra d'ailleurs obligatoire dans tous les théâtres et les cafés-concerts. Mais toujours est-il qu'à côté des cabarets et des cafés-concerts, lieux populaires de sociabilité et parfois de subversion, ou bien à côté des bals en plein air, comme le fameux bal Mabille, le bal Bullier, celui de la Grande Chaumière, où l'on danse en couple le chahut, bientôt rebaptisé Cancan, les théâtres ouvrent alors à la chaîne. On a déjà parlé des bouffes parisiens, ouverts par Offenbach en 55, citons ici le théâtre du Châtelet en 62, celui de la Gaîté en 63. En 64, le suranné privilège des théâtres est donc supprimé, la concurrence entre établissements fait rage. S'ouvre alors le Bataclan en 65, les Folies Bergères en 69, où l'on donne d'abord de l'opéra, puis bientôt du music-hall. Ces théâtres donc, où sont données des pièces de boulevard, des vaudevilles, des opéras, des opérettes, des ballets. Ils s'en construisent tellement, jouant chaque soir tant de spectacles, que de cette offre pléthorique, il faut bien faire quelques publicités. Après avoir un temps placardé les affiches sur les cloisons de bois des urinoirs, on décide de raffiner un peu l'ensemble. Le 1er juillet 1868 apparaissent les premières colonnes Maurice, permettant à chacun de rêver là où il pourra, le soir venu, se projeter.
Oh!
Je veux vivre dans ce rêve qui m'enivre ce jour encore, douce flamme, je te garde dans mon âme comme un trésor. Cette ivresse de jeunesse ne dure hélas qu'un jour. L'aria de Juliette, aussi connue comme la valse de Juliette, extrait de l'acte 1 de Roméo et Juliette, composé par Gounod d'après le drame de Shakespeare et créé au Théâtre Lyrique. Interprété ici en 1995 par l'orchestre de la radio de Munich et Ruth Ann Svensson dans le rôle de Juliette. Paris, où ces années-là, la ville est prise de vitesse. On va assister aux courses de chevaux sur les hippodromes de Longchamp, de Vincennes, puis d'Auteuil. Mais la vitesse, c'est aussi et surtout celle induite par l'emballement du progrès technique, celle du train qui, importé en France à partir de 1837 entre Paris et Versailles, permet le brassage et l'évasion et, au passage, la multiplication des gares parisiennes, celle du Nord, de l'Enfer, de Montparnasse, d'Orsay ou de l'embarcadère de Strasbourg, la future gare de l'Est. La notion même de temps est bousculée par ce progrès technique. Ce temps que l'on se met à dompter, il faut aller vite, se déplacer sans cesse dans la ville. Bientôt naîtra le métropolitain, dont la première ligne reliant Vincennes à la Porte Maillot sera inaugurée en 1900. Mais en attendant, on se met à chevaucher des bicyclettes dont les premiers modèles à pédales font leur apparition ces années 1860 grâce à un certain Michaud, serrurier à Paris, des vélos dont on recensera à la fin du siècle 94 255 exemplaires à Paris. Ceci dit, on continue aussi de flâner. Si le début du siècle est celui des déambulations dans les passages couverts, la période suivante est celle des jardins. À côté des beaucoup plus anciens jardins du Luxembourg ou des Tuileries, s'ouvre le jardin d'acclimatation en 1860, le parc Monceau l'année suivante et, sous l'impulsion d'Haussmann, les Buttes-Chaumont en 67 et Montsouris deux ans plus tard. Des jardins notamment imaginés par Adolphe Alphand, nommé ingénieur en chef des promenades et qui recrée des voyages visuels à la française ou à l'anglaise comme au Buttes-Chaumont où est représenté un paysage de montagne avec rochers, falaises, torrents, cascades, grottes ou belvédères. Des jardins où, évidemment, s'épanouissent aussi les fleurs, comme dans ce célèbre duo de l'Acmé, l'opéra de Léo Delibes. Sous le dôme épais où le blanc jasmin à la rose s'assemble sur la rive en fleurs, riant au matin, viens, descendons ensemble.
C'est l'heure où je te vois sourire.
Sabine Devielle, Marianne Crébassa et l'ensemble Les Siècles pour ce duo des fleurs, extrait de l'acte 1 de L'Acmé, l'opéra de Léo Delibes, créé en 1883 à l'Opéra Comique et qui, racontant l'amour impossible d'un officier britannique pour la fille d'un prêtre de Brahma des Indes, illustre encore cette fameuse mode de l'exotisme qui chavire alors Paris. Ceci dit, à Paris, ces années-là, le voyage est partout. Et par exemple, dans l'habitude nouvelle que l'on prend d'acheter des choses plus ou moins utiles, de consommer. Succédant aux magasins de nouveautés installés au début du siècle dans les passages couverts, citons ici le Grand Mogol, la Fille d'Honneur, les Deux Magots ou bien la Belle Jardinière, les premiers grands magasins constituent un nouvel horizon pour les bourgeoises que la morale de leur milieu limite dans leurs activités. Au Bon Marché, qui inspirera bientôt le Bonheur des Dames à Zola, au Printemps, à la Samaritaine, ou bien à la fin du siècle aux Galeries Lafayette, elles peuvent venir s'occuper, palper les étoffes et acheter de presque tout dans un cadre rassurant et à prix fixe. Mais je m'égare. Ah oui, revenons à l'essentiel.
Mon Dieu, que les hommes sont bêtes, que les hommes sont bêtes, que les hommes sont bêtes. Nous pouvons le répéter plusieurs fois. C'est une chose que nous ne dirons jamais. Mon Dieu. Ici, nous allons mettre un « ah » pour te permettre de soupirer. Mon Dieu. Que les hommes sont bêtes, sont bêtes. Maintenant, un petit couplet sans importance. L'important, c'est le refrain. Supposons que ce soit ton bel ami qui parle, voici à peu près ce qu'il te dirait. Je ne suis pas d'humeur jalouse, tu peux mentir, j'adore ça. Tu m'as tombé, moi je t'épouse, pardon, bouchivite avec ya.
Pardon, bouchivite avec ya. Tout cela me tourne la tête, c'est en faisant mal qu'on fait bien. J'avoue que je n'y comprends rien. Rien, sauf ceci.
Mon Dieu, que les hommes sont bêtes, que les hommes sont bêtes, que les hommes sont bêtes. Mon Dieu,
oh, que les hommes sont bêtes.
Mon Dieu, que les hommes sont bêtes. Yvonne Printemps et Pierre Fresnay, extrait du film La Valse de Paris, consacré par Marcel Achard en 1950 à la vie romancée d'Offenbach et de sa muse et cantatrice préférée, Hortense Schneider. Offenbach, revenons-y d'ailleurs, lui dont les opéras bouffent, ses opéras légers, connaissent toujours cette deuxième moitié de siècle un immense succès. Même si, à la fin des années 60, ses livrets se font plus sombres, la bouffonnerie échevelée faisant place à plus d'insécurité. Ainsi, dans « La Péricole », créée aux Variétés en 1868 sur un livret de ses deux comparses habituels, Alévi et Meillac, et où les pauvres Péruviens ont faim, sont méprisés par leur souverain, où l'alcool rend bête, la Péricole ne marche qu'à moitié. Même si, d'une certaine manière, la nouvelle gravité des opérettes d'Offenbach trahit une réalité bien réelle, la montée des tensions géopolitiques et la guerre contre la Prusse qui se profile. Ainsi que le compositeur semble le pressentir dans un autre spectacle de 1869 intitulé « Les Brigands » et dans lequel se font entendre de funestes et étranges bruits de bottes.
Écoutez, voyez-vous là-bas, tout près des grottes, reluire des casques d'acier. Voyez là-bas, j'entends un bruit de bottes. J'entends un bruit de bottes. C'est le premier carabinier. Ce sont les bottes des carabiniers. J'entends un bruit de bottes. C'est le premier carabinier. Ce sont les bottes des carabiniers. silence. Plus tard, nous montrerons du cœur. S'il est en temps pour la valeur, il en est temps pour la prudence. Silence, silence, silence.
J'entends un bruit de botte, de botte, de botte, de botte, de botte. C'est le premier carabinier,
c'est le premier carabinier.
Ce sont les bottes, les bottes, les bottes, les bottes, les bottes, les bottes. Les bottes des carabiniers.
Oui, des carabiniers.
Silence.
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 Silence, n'entendez-vous pas encore le bruit de leurs pas? Chantez, mais bien bas, tout bas, bien bas, piano, piano, pianissimo, piano.
J'entends un bruit de mode. Des carabiniers, des carabiniers, des carabiniers.
J'entends le bruit des bottes, Jacques Offenbach, les brigands. Les bottes qui ne sont pas seulement celles des carabiniers pourchassant les brigands de Falsacapa, mais aussi donc celles des troupes prussiennes que, manipulées par Bismarck, Napoléon III n'a pu éviter de défier. Et qui, quelques semaines plus tard, amène les troupes françaises à la déroute de la bataille de Sedan. Le 2 septembre 1870, Napoléon III capitule, et aussitôt que la nouvelle se propage dans les grandes villes françaises, disparaît l'Empire, remplacé par la Troisième République. Un gouvernement provisoire tente toutefois de poursuivre la guerre, tandis que les Prussiens se dirigent vers Paris, qu'ils assiègent, et dont le blocus n'est forcé qu'à coups de pigeons voyageurs ou de ballons dirigeables. Paris connaît alors un terrible hiver, on manque de tout, gaz, charbon, nourriture, au point qu'on finit par manger les chevaux, les chiens, les chats, les rats et même les animaux de la ménagerie du jardin des plantes, antilopes, chameaux, zèbres, jusqu'aux deux éléphants, Castor et Pollux. En janvier, les bombardements prussiens font des ravages jusqu'à ce qu'enfin l'armistice soit signé. L'exaspération du Paris populaire éclatera quelques semaines plus tard lors de l'insurrection de la Commune, voyant se mobiliser les ouvriers et les classes laborieuses que la transformation de la ville par Haussmann a fait se concentrer dans l'est de la ville, loin des beaux quartiers du centre et de l'ouest. Ces insurgés érigent des barricades qui seront balayées fin mai lors de la semaine sanglante.
Sont des mouchards, des gendarmes, on ne voit plus des vieillards, tristes en larmes, des veuves et des orphelins. Paris supporte la misère, les heureux mêmes sont tremblants. La voix des troupes, conseil de guerre, et les pavés sont tous sanglants. Oui, l'enfant dans les bras du vieillard. Les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur. De tous les jeunes, la bande bouge.
salle de roi et d'empereur. Oui, mais ça tombe dans le monde, les mauvais jours finiront. Les gardes à la manche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront.
La Semaine sanglante, composée en juin 1871 par Jean-Baptiste Clément, un poète chansonnier, membre de la Commune et à ce titre recherché les semaines suivantes par l'armée. La Commune dont Paris se réveille exsangue. Face à la détresse sociale, de nombreux bourgeois décident alors de sortir de leur bulle et, dans une sorte de sursaut philanthropique, de mettre la main au portefeuille pour venir en aide aux miséreux. Parmi eux, un Britannique installé depuis longtemps sur place et qui s'entiche de sa ville d'adoption. Pendant la guerre, il a fondé un hôpital prenant en charge les victimes des bombardements. Après le conflit qui a vu la destruction de nombreux aqueducs, l'eau même vient à manquer. Il devient plus simple de s'hydrater au Gros Rouge. Notre Britannique, George Wallace, décide alors de créer et de financer des fontaines publiques qui bientôt porteront son nom et dont la première est installée en 1872, boulevard de la Villette, dans l'Est parisien. En 1875 est finalement achevé et inauguré l'un des éléments les plus prestigieux de la refonte haussmannienne, l'Opéra Garnier, dont les travaux avaient été lancés 15 ans plus tôt et longtemps cachés à la vue du public par un échafaudage afin de ménager l'effet de surprise. La dernière phase des travaux ayant été interrompue par la guerre de 1870 et l'empereur déposé, c'est Mac Mahon, le deuxième président de la Troisième République, qui coupe le ruban. On s'en doute, la cérémonie est somptueuse, rassemblant 2000 invités venus de toute l'Europe. Musicalement, on y joue des extraits de plusieurs œuvres, comme l'ouverture du Guillaume Tell signé Rossini. Pendant ce temps, dans ce Paris renouvelé, l'argent reste le nerf de la guerre, ainsi que le décrit Maupassant dans Bel Ami. Il tourna vers la Madeleine et suivit le flot de foule qui coulait, accablé par la chaleur. Les grands cafés, pleins de monde, débordaient sur le trottoir, étalant leur public de buveurs sous la lumière éclatante et crue de leur devanture illuminée. Devant eux, sur de petites tables carrées ou rondes, les verres contenaient des liquides rouges, jaunes, verts, bruns, de toutes les nuances. Et dans l'intérieur des carafes, on voyait briller les gros cylindres transparents de glace qui refroidissaient la belle eau claire. Duroy avait ralenti sa marche et l'envie de boire lui séchait la gorge. Une soif chaude, une soif de soir d'été le tenait et il pensait à la sensation délicieuse des boissons froides coulant dans la bouche. Mais s'il buvait seulement deux bocs dans la soirée, adieu le maigre souper du lendemain, et il les connaissait trop, les heures affamées de la fin du mois. Thank you. faisant fi des infortunes singulières, la frénésie collective et moderniste continue de s'emparer de Paris, à qui le progrès technique offre un symbole retentissant. En mars 1889, à l'occasion d'une nouvelle exposition universelle célébrant le bicentenaire de la Révolution, est inaugurée la Tour Eiffel, à l'issue d'un chantier record d'à peine 2 ans et 2 mois. La tour, gigantesque mécano de 18 000 pièces métalliques dessinées au dixième de millimètre près et fabriquées à Levallois-Perret. Des pièces qui sont hissées par des grues à vapeur s'élevant au fur et à mesure de la construction. Le jour de l'inauguration, Gustave Eiffel, après avoir planté un drapeau tricolore au sommet de l'édifice, est décoré de la Légion d'honneur au sommet de la tour.
De Jean Giraudoux, Prière sur la Tour Eiffel, par Jacques Toja et Denise Jans.
Et voici la Tour Eiffel. Mon Dieu, quelle confiance il possédait en la gravitation universelle, son ingénieur. Sainte Vierge, si un quart de seconde l'hypothèse de la loi de pesanteur était controuvée, quel magnifique décombre. Voilà ce qu'on élève avec des hypothèses. Voilà réalisé en fer la corde que lance au ciel le fakir et à laquelle il invite ses amis à grimper. J'ai connu Eiffel, je grimpe.
Paris, Tour Eiffel.
Lorsqu'on nous demande ce que c'est Paris, on répond toujours l'étoile, les Tuileries, la voie de Boulogne et la voie de Vincennes, les petites boutiques des quais de la Seine.
D'autres plus sérieux disent sans hésiter, c'est la petite roquette ou bien c'est la santé.
C'est les grands boulevards, il y a l'opéra, mais ne les croyez pas.
Paris, c'est la Tour Eiffel, la belle sa voile qui monte.
Qu'on la trouve laide, qu'on la trouve belle, y a pas de Paris sans Tour Eiffel.
On la débine, on la charrie, pourtant partout ce n'est qu'un cri.
Paris ne serait pas Paris sans elle.
Paris, c'est la Tour.
Il faut dire que beaucoup de Parisiens ne connaissent la tour que par leur petit cousin ou alors par le vieil oncle à air vital qui est monté à pied jusqu'au troisième étage. Ah, ah, dit-il, c'est beau, c'est merveilleux, madame. Quand on est là-haut, on peut voir tout Paname.
Et le Parisien se dit, tiens, 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 j'irai la voir demain.
C'est sur ce Paris Tour Eiffel signé Jacques Elian que se referme ce numéro de Jukebox. Ce soir, Paris 1875, une fin de siècle en fanfare. La réécoute, le téléchargement, la liste des morceaux diffusés, les références des archives, c'est sur franceculture.fr, à la page de Jukebox où vous pouvez nous faire part de vos commentaires. Jukebox, c'est Chouchane Djergaillan et Antoine Villoz à la préparation. Merci à Marie-Claude Chardot pour son goût de l'opérette. À la technique, c'était Philippe Mercher, Agnès Catou à la réalisation, au micro, à Maurice Chardot, à samedi 19h pour un prochain Jukebox.
Les grands magasins, les rues et les cafés.
Mais voilà qu'un soir elle rencontra l'amour. Et maintenant quand on lui demande à son tour, quel est votre ami sur Paris, franchement, elle dit en rougissant.
Le Tour de Nel,
le Tour de Londres sont bien moins belles.
On est toujours sûr avec elle de monter jusqu'au septième ciel.
Paris ne serait pas Paris sans elle.
Avec sa voix qui monte au ciel.
Messieurs, la visite est terminée. N'oubliez pas le guide, s'il vous plaît.